Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Chasse gardée de Juan Goytisolo. Chasse gardée, premier texte autobiographique de Juan Goytisolo, nous mène d'une enfance assombrie par la guerre civile jusqu'à la révolte d'adolescents contre son milieu, la bourgeoisie de Barcelone, franquiste et sclérosée, dont l'auteur ne se libère que dans ses échappées vers le sud désertique et brûlé de l'Espagne, puis en s'exilant à Paris. Avec la même intransigeance vigilante, Goytisolo s'en prend à un pays, à une époque et à lui-même. Mais cette quête rétrospective d'une identité et d'une patrie, loin de se cantonner dans les règles du genre, se fait au hasard de fulgurations intenses, ruptures, hors texte, qui ponctuent l'itinéraire chronologique et fondent la véritable dimension temporelle et poétique du livre. Incursion lucide et déchirée dans les méandres de la mémoire où se révèlent les exigences éthiques de la conscience, inséparable de tensions expressives du langage. Avec Chasse gardée qui inaugure une géographie personnelle jamais explorée, Juan Goytisolo donne à la littérature espagnole une œuvre majeure. Juan Goytisolo est né à Barcelone le 6 janvier 1931, dans une famille de la bourgeoisie barcelonaise. Son enfance est marquée par la guerre civile espagnole, notamment parce que sa mère, Julia Gay, est tuée pendant les bombardements de Barcelone par l'aviation italienne, alliée à l'armée franquiste en 1938. Après la fin de la guerre civile, Goytisolo suit une scolarité au collège des Jésuites de Sarria, puis au collège de Benanova, de los Hermanos de la Doctrina Cristiana. En 1948, il commence des études de droit à l'Université de Barcelone. C'est à cette époque qu'il découvre la littérature contemporaine, notamment française, André Gide et Jean-Paul Sartre. Il publie en 1954 son premier roman, « Je demain », et abandonne les études de droit. Son implication politique aux côtés du Parti communiste clandestin et surtout son engagement dans l'écriture le poussent à s'installer à Paris en 1956. Il y rencontre la scénariste et romancière Monique Lange, qui deviendra sa compagne. Professionnellement, il entre chez Gallimard comme lecteur et devient responsable de la littérature espagnole. La publication de ses premiers romans est accueillie avec enthousiasme en France, ce qui lui vaut très vite une certaine renommée. En Espagne, il est en conséquence de plus en plus considéré comme un opposant très visible. Après plusieurs démêlés tendus avec la police franquiste, il finit par renoncer à ses voyages en Espagne. Ses livres sont, à partir de pièces d'identité en 1968, interdits de publication en Espagne et il est régulièrement l'objet de campagnes de dénigrement de la part de la presse officielle. À partir de 1969, il s'engage dans une révolution radicale de l'écriture qui s'accompagne d'un bouleversement de son existence. Professionnellement, il décide d'abandonner son travail chez Gallimard. Sentimentalement, il découvre et assume son homosexualité. Géographiquement, il vit désormais entre Paris et Marrakech. C'est à partir de là qu'il entre dans son œuvre majeure et ses livres les plus importants, dont Julian en 1970, Juan Santer en 1975, Macbara en 1980. Entre 1969 et 1975, il enseigne la littérature dans l'Université de Californie, Boston et New York. Après le décès en 1996 de son épouse et collaboratrice Monique Lange, il quitte leur appartement de Paris et s'installe définitivement à Marrakech en 1997, où il meurt le 4 juin 2017 à l'âge de 86 ans. Il repose dans le cimetière marin espagnol de Larache au Maroc. Sa tombe est la voisine de celle de Jean Genet. Appartenant à la génération de 50, il est l'un des écrivains les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. Attaché par des liens sentimentaux et intellectuels très forts à l'Espagne où il est né, il a pourtant vécu en exil et développé un regard critique vis-à-vis de son pays d'origine. Ce regard critique l'aura aidé à construire une œuvre d'une grande originalité idéologique et stylistique et à adopter une position politique originale devant le nouvel ordre mondial de la fin du XXe siècle. Il a vécu dans 4 pays, le Maroc, la France, les États-Unis et l'Espagne. Tout en écrivant ces lignes, j'essaie de fixer les quelques images précises que j'ai gardées de ma mère. Le jour où elle se disputa avec mon père pour une raison que j'ignore et s'essuya les yeux avec son mouchoir. Celui où, parce que je trouvais qu'elle me délaissait pour se consacrer exclusivement aux soins qu'exigeait la santé de son mari, je lui dis que j'aimerais moi aussi tomber malade. Et où, sans pouvoir se contenir, elle me donna une gifle bien méritée. Le soir où, chez mes oncles, j'appris l'accident survenu à mon cousin Paco, le fils de ma tante Maria. Un tramway lui avait écrasé la jambe alors qu'il patinait dans la rue. Tante Rosario m'avait chargé de lui annoncer une mauvaise nouvelle, sans préciser de quoi il s'agissait. Et tandis que ma mère s'habillait, et plus tard, que nous courions jusque chez ma tante, je jouissais égoïstement de mon bref pouvoir en lui glissant peu à peu, selon mon bon plaisir, ce que je savais du drame. La guerre civile et ses désastres n'avaient eu jusqu'alors sur moi que des répercussions indirectes et lointaines. La petite colonie de bourgeois barcelonais installée à Villadro vivait provisoirement en marge du conflit et gardait, pour la galerie, une attitude de neutralité prudente. Certains commentaires ironiques, l'allusion répétée au fait qu'une voiture officielle venait prendre chaque semaine Bono, un coiffeur célèbre réfugié lui aussi dans la ville, pour qu'il embellisse les épouses des ministres du gouvernement et de la Generalitat, permettait seul de lire par transparence ses véritables sentiments. Mais, loin des oreilles indiscrètes, les langues se déliaient. Le soir, nous recevions souvent la visite de Lolita Soler, une femme de 40 ans, sèche, célibataire, fille de militaire monarchique, qui avait vécu le siège de Madrid avant d'être évacuée en Catalogne et d'échouer, comme nous, dans cette petite ville de montagne. À ces récits effrayants des assassinats, arrestations, déportations, martyrs héroïques, racontés à mi-voix pour que les enfants ne puissent l'entendre, elle mêlait des nouvelles encourageantes sur les progrès de l'autre camp, qu'elle écoutait, disait-elle, sur un poste à Galène, qui captait Radio Burgos. Ses malheurs et ses aventures, sûrement exagérées selon ma famille, provoquaient autour de la table des discussions interminables qui se prolongeaient après son départ. La situation difficile dans laquelle vivaient mes grands-parents, la détresse de Consuelo enfermée avec eux dans leur appartement de l'avenue Diagonale, les bombardements de plus en plus fréquents aggravaient les inquiétudes de ma mère, déjà accablée par ses charges domestiques, 4 enfants, un mari malade et sans espoir de guérison prochaine. Dans une lettre retrouvée des années plus tard, par ma sœur, elle disait à ses parents combien elle était préoccupée de n'avoir pas eu de leurs nouvelles après une attaque aérienne. Toutes les 2 ou 3 semaines, elle prenait l'autocar qui l'emmenait à la gare de Balenia. Elle passait la journée auprès d'eux, faisait quelques courses et revenait le soir même à Villadro. Malgré leur brièveté, ces visites calmaient son angoisse et étaient devenues, au bout de quelques mois, une sorte de rituel. Le matin du 17 mars 1938, ma mère fit une fois de plus le voyage. Elle quitta la maison au petit matin, et bien que je connaisse les pièges de la mémoire et ses reconstitutions factices, je me souviens parfaitement que je me penchais à la fenêtre de ma chambre, tandis qu'elle, cette femme déjà inconnue, avec son manteau, son chapeau et son sac, s'en allait vers une absence définitive à nous et à elle-même. Abolition, vacuité, néant. Il peut paraître étrange que je me sois réveillé précisément ce matin-là et qu'averti de son départ par le bruit de ses pas, puis de la porte, je me sois levé pour la suivre des yeux. Pourtant, l'image est réelle et me laissa l'amer remords de ne pas l'avoir appelée à grands cris et exige d'elle qu'elle renonce à son voyage. C'est sans doute le fait d'un mécanisme de culpabilité ultérieure. Une façon indirecte de me reprocher mon inertie, de n'avoir pas su reconnaître l'imminence du danger, de ne pas avoir esquissé le geste qui, dans mon imagination, aurait pu la sauver. Quand j'éprouve l'inutile attente de son retour, l'anxiété croissante de mon père, nos allées et venues chez mon oncle ou à l'arrêt de l'autocar, en quête de nouvelles, je me sens plus sûr de moi. Deux jours de tension, angoisse prémonitoire, insupportable silence, visite de l'oncle et de la tante, sanglots de Lolita solaire, versions successives rapportées à voix basse dans la chambre de mon père jusqu'à cette triste Sainte-Joseph où tante Rosario nous réunit tous les quatre dans l'escalier extérieur qui menait au jardin et nous parla, interrompue par la voix défaillante de Lolita solaire, du bombardement de ses victimes, elle parmi d'autres, sans doute gravement blessée, nous menant peu à peu comme le taureau à qui le matador vient de donner l'estocade et que ses seconds forcent adroitement à s'agenouiller pour qu'il l'achève d'un coup dans la nuque sec et efficace, au moment où, d'une voix noyée de larmes et malgré les protestations apitoyées de Lolita solaire, elle lâcha le mot inconcevable, nous laissant abasourdis, moins par une douleur immédiatement extériorisée, pleurs, sanglots, que par notre incapacité à assumer une nouvelle aussi brutale, encore inconscient de sa pleine signification et surtout de son caractère définitif, irrévocable. Comment elle mourut? À quel endroit exactement elle tomba? Où elle fut transportée? Quand? Et dans quelles circonstances ses parents la reconnurent? Je n'ai jamais su et ne le saurai jamais. L'inconnu qui disparaissait brutalement de ma vie le fit en toute discrétion, loin de nous, comme si elle voulait amortir par sa délicatesse le choc que provoquerait immanquablement son départ, épaississant du même coup l'obscurité qui l'envelopperait et ferait d'elle une étrangère. Objet de cabale et de conjecture, d'hypothèses douteuses, indémontrables. Elle était allée faire des courses dans le centre de la ville. Les premiers bombardements l'avaient surprise près du carrefour de la Grandia et du Paseo de Gracia. Une étrangère aussi pour les gens qui, l'alerte passée, ramassèrent cette femme jeune à jamais dans la mémoire de tous ceux qui la connurent. La dame avec un manteau, un chapeau, des chaussures à talons, qui s'accrochait à son sac rempli de cadeaux pour ses enfants, que ceux-ci, quelques jours plus tard, dans le vêtement teint en noir, comme le voulait la coutume à l'époque, recevraient en silence des mains de tante Rosario. Un roman à l'eau de rose pour Martha, des livres de Doc Savage et l'ombre pour José Agustine, un volume de contes illustrés pour moi, des pantins en bois pour Louis qui resterait abandonné dans un coin du grenier. Le sac noir vide, tout ce qu'il restait d'elle. Son rôle dans la vie, dans notre vie, s'était achevé de manière abrupte, avant la fin du premier acte. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.